Avant la fête de Pâques, de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se sent. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec l'ange dont il, avec le linge dont il était saint. Le linge dont il était saint. Après, il y a quelque chose de ce qu'on a entendu ce matin. Pierre, Judas. Et après, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors j'avoue que je suis un petit peu dans l'embarras. Parce que bon, j'ai écrit plein de choses là, 12 pages d'affaires, de paroles. Peut-être inutile, certainement inutile, sauf ces paroles dont que je viens de lire. Tout le reste. Alors je vais lire pendant 45 minutes, toujours la même chose, plusieurs fois. Non mais j'ai imaginé aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard dans la salle à manger et j'étais un peu à l'écart. Et j'imaginais à un moment donné quelqu'un qui se lève, son André se lève et commence à laver les pieds. Non? Isabelle se lève, commence à laver les pieds. Ce serait très bizarre. Non? Ce serait très bizarre. Et pourtant, là, dans le début, on est au début du chapitre 13 de Jean. Comment dire? Quelque chose d'extrêmement... Non. La révélation ultime de Dieu se présente. Les chapitres qui viendront, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, seront un déploiement de cette réalité ultime de Dieu. Et comme le disait ce matin Florence, ce chapitre 13 marque une césure dans l'évangile. Il y a l'évangile jusqu'au chapitre 12 et après, le chapitre après, non, le chapitre 13. Et jusqu'au chapitre 12, en fait, l'évangile, c'est l'évangile des signes, les miracles, non. Les signes disent autre chose, non. Du chapitre 13 en avant, en suivant, après les chapitres suivants, en fait, Jean ne parle plus de signes, mais en fait, il parle de ce que le signe signifiait. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Prenez une note, je vais tout de suite quelqu'un qui va écrire. Bon, voilà, il nous va dire ce que c'est. Alors, je lui dis, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ce qui se manifeste à partir du chapitre 13, c'est la gloire de Dieu. Donc cet épisode que nous venons de lire, en fait, c'est la première manifestation de la gloire de Dieu. Et si vous voulez, ce serait intéressant de lire toute la première partie, non, selon le point de vue de cette gloire. Non, selon, parce que qu'est-ce que c'est cette gloire? Non, mais nous avons vu ce que Jésus a fait. Il s'est mis à servir Donc en fait, cette gloire, c'est l'amour. Et cette première, toute première page du chapitre 13 nous montre qu'est-ce que c'est l'amour. C'est comme si à partir de ce chapitre, Jean nous enseignait une manière de penser, de sentir, de vivre, à la lumière de laquelle nous apprenions à voir la réalité selon le cœur de Dieu. Et donc, c'est la proposition que je voudrais faire, vous faire avec cette méditation. Essayez de vous laisser porter par le regard de Dieu sur le monde. Vous commencez à acquérir un peu sa façon de voir, qui est la façon de voir et d'agir de Dieu, de l'amour. Et il est évident que nous devons toujours y revenir. Nous devons toujours revenir à l'Évangile, car normalement, ce n'est pas comme ça que nous portons. Et en revenant dessus, l'Évangile devient chair de notre chair. Petit à petit, jour après jour. Et donc, celle d'aujourd'hui, la page du lavement des pieds, est une page que nous connaissons très bien. Nous la lisons au moins une fois par an dans le Triduum pascal. Et pourtant, comme toutes les pages de l'Évangile, nous devons à chaque fois rouvrir les yeux, ouvrir à nouveau les yeux sur la réalité qu'elle nous manifeste pour qu'elle nous prenne lentement et nous fasse vivre la vie de Dieu. Et donc, alors c'est l'évangile de Jean. Il y a une place ici. L'évangile de Jean, c'est un évangile assez compliqué, difficile. Si on essaye de le comprendre. Mais en fait, c'est un évangile dont il faut se faire, c'est-à-dire, il faut s'immerger. Il faut s'immerger petit à petit. Parce que c'est comme lire un livre fait de vagues. Il revient toujours sur la même chose, non? Et à chaque fois, c'est nouveau. À chaque fois, c'est nouveau. Le risque, c'est de penser qu'on a compris. Là, c'est sûr, on n'a rien compris. Et je vais dire certaines choses que pour moi, je l'ai écrit. Pour moi, c'est énorme, c'est immense. Bon, je m'arrête. Alors, l'évangile de Jean, c'est le seul évangile qui ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. Même si Jean parle au chapitre 6 pas mal de l'Eucharistie. Je ne dis rien par rapport à ça. Okay. Ici, au chapitre 13, au lieu de l'Eucharistie, il préfère raconter comment Jésus lave les pieds des apôtres, comment Jésus se met à leur service et finit par donner le commandement de l'amour mutuel. La structure est le lavement des pieds. Pierre, Judas. Après Judas sort, le commandement nouveau, et Pierre qui dit, je te suivrai jusqu'au bout, et Jésus dit, tu me trahiras, tu me renieras. Ça, c'est la structure du chapitre. Okay. Donc, nous c'est vraiment la première partie qu'on va faire. Ça signifie, si Jean ne parle pas de l'Eucharistie, mais parle de l'amour mutuel, signifie que les deux choses sont profondément liées. L'Eucharistie et l'amour réciproque sont la même chose. Jean veut que l'Eucharistie ne soit pas un rite magique. Pour lui, célébrer l'Eucharistie signifie justement laver les pieds. Et cela, tous les jours. Car l'Eucharistie est notre quotidien. C'est comme si Jean nous disait, celui qui mange du corps du Christ vit du corps du Christ, c'est-à-dire aime. L'amour mutuel est précisément la vie du corps du Christ qui est l'Église. Celle d'aujourd'hui n'est donc que la première scène, le principe et le fondement de tout ce qui se passera dans les chapitres suivants. C'est la porte d'entrée de la seconde partie de l'Évangile. Eh bien, l'Évangile de Jean est l'Évangile de la gloire, je le disais au début. C'est l'Évangile de la manifestation de la beauté de Dieu, car la gloire de Dieu est sa splendeur. Mais, quand on parle de gloire, on parle de quoi ? Parce que c'est un terme très fréquent dans la Bible. On le dit toujours, non ? Dans les psaumes, non ? On le dit sans savoir ce que ça signifie, souvent. Non, parce que c'est un terme pas simple, voilà. Il y a un psaume magnifique, c'est le psaume 19, qui dit « Les cieux rencontrent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Et donc, quand on parle de gloire, on parle de la réalité de Dieu qui se manifeste. Et donc, quand nous lisons le chapitre 13, le lavement de pieds, cela ne signifie pas que nous assistons à une scène, peut-être, de Dieu qui s'humilie et se met à faire quelque chose de un peu comme ça. Personne ne l'a fait, c'est un peu... Voilà. Il ne s'agit pas d'assister à une pratique à imiter. Mais comme on parle de la gloire, il s'agit de contempler avec un regard humble quelque chose des profondeurs de Dieu qui se révèle. Donc le lèvement de pied, ce n'est pas une pratique. Et Dieu qui s'y révèle, dans sa réalité. Voilà le sens ultime de Jésus qui lave les pieds aux apôtres. Laver les pieds n'est pas simplement un signe, c'est la réalité de Dieu. Ça, c'est très important. Très important. Cette réalité, au sens fort du terme, est la réalité du pain rompu de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Tout est lié. Et donc, il ne s'agit pas d'un geste d'humiliation du Seigneur. En lavant les pieds, Jésus exprime la pleine conscience d'être Dieu. D'avoir entre ses mains la puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu ? C'est servir. Quand nous lisons les psaumes, nous pensons toujours au pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, comme la puissance commandant d'armée, non, qui gagne toujours. Lui, il gagne toujours. Non ? Oui, c'est normal. C'est-à-dire, souvent, ces psaumes ont été écrits pour rapporter à Dieu une réalité qui était une réalité humaine. D'accord ? Mais la révélation de Jésus, c'est une révélation qui efface tout ça. Le pouvoir de Dieu, ce n'est pas écraser les autres, mais se servir les autres. Et ça change tout. Donc, Jésus qui se met à servir, ne fait pas quelque chose de humble, mais dit « Je suis Dieu ». Et donc, avec ça, il a la conscience d'être venu de Dieu et de retourner à Dieu. C'est pour cela l'heure de la gloire, en lavant le pied. Jésus exprime ainsi la gloire de Dieu. Qui est Dieu ? C'est celui qui lave les pieds. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, non, un passage parallèle, Luc écrit « Moi, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. » Donc, ce n'est pas simplement une idée de Jean. Là. En fait, c'est une idée qui traverse tout l'évangile, tous les évangiles. Dieu est amour, et l'amour est essentiellement humilité, pas humiliation. L'humiliation est pour les orgueilleux. L'humilité est à celui qui aime. Cette façon de concevoir la divinité de Dieu est pour nous inconcevable. D'où la réticence de Pierre, qui est la nôtre. Parce que cela est exactement le contraire de ce que nous pensons habituellement de Dieu. C'est pour cela qu'il s'agit pour l'instant plus de contempler que de comprendre. Parce que c'est trop grand à comprendre. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Son heure est venue. L'heure est le jour de Dieu, le jour de son intervention, l'heure décisive où Dieu se révèle et, ce faisant, sauve l'homme. Le premier miracle, celui de Cana, avait déjà parlé de cette heure. On se souvient, Jésus se tourna vers Marie, « Mon heure n'est-elle pas venue ?» Donc l'heure est présente en tout l'évangile. Dès le début, donc, Jésus indique cette heure. Maintenant, au chapitre 13, l'heure est venue. Le geste du lavement des pieds, ce n'est que les débuts d'un passage. C'est le sens de la Pâque. Non, Pâques, passage. Non. Du monde tel que nous le voyons chaque jour, au monde de l'amour, à la façon de voir le monde du Père. Et il poursuit. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'est bizarre. Jésus, ayant aimé, qu'est-ce qu'il fait ? Aime encore. Désormais, on ne parlera plus de la vie, de la lumière, c'était les signes du chapitre jusqu'au chapitre 12, non? D'autres choses comme c'était là le cas jusqu'au chapitre 12. On parle d'amour. Dans l'évangile de Jean, le mot amour est utilisé 38 fois et seulement 7 fois dans les 12 premiers chapitres. Toutes les autres fois, il est utilisé dans cette seconde partie de l'évangile, donc c'est quelque chose d'essentiel. Et le substantif « amour » n'est pas tellement utilisé, mais plutôt le verbe « aimer ». Comment dire que l'amour, c'est quelque chose qui se fait. C'est concret, c'est une action. Et ça s'exprime comment ? Dans le service concret des frères. Nous pensons toujours que servir, c'est faire quelque chose. Et c'est vrai, c'est faire quelque chose. Non? Mais en fait, servir signifie la réalité vivante de Dieu. Et on dit qu'ils aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. En grec, le mot exprime le but ultime. J'ai écrit cette phrase en pour vous dire que j'ai étudié quand même quelque chose. Voilà. Le point extrême... En grec, c'est telos, hein? Non ? Dit pas seulement le fait qu'il y avait un sens, le sens, mais le sens ultime que ce terme dit, c'est la croix. Le sens ultime de la croix se manifeste d'ores et déjà à ce moment, pendant le lavement des pieds. C'est l'heure où il achève tout le parcours de sa vie qui a été d'aimer, de servir les frères. Pour cela, le servir montre la gloire de Dieu comme une révélation totale de l'amour de Dieu. Il n'y a plus rien à révéler. Donc, le service, c'est la révélation de Dieu. Mais après, il y aura autre chose. Il y aura les chants, il y aura les anges. Non. La révélation de Dieu, c'est le servir. Toute l'Écriture pointe ici. Car toute l'Écriture rencontre l'amour de Dieu pour l'homme, de Dieu qui part à la recherche de l'homme, comme le décrit de façon magnifique le Cantique des Cantiques. Enfin, le voyage de Dieu touche à sa fin. Son voyage se termine. C'est-à-dire, on ne va pas plus loin de ça. Ça va ? Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Alors, nous sommes encore dans les prémices. Le ton est très solennel. Vous voyez, ça semble une liturgie. Non? Et cela indique l'importance de ce qui va se passer. Mais il ne s'agit pas du dîner ultime. Le dîner dont parlent les autres évangiles est le dernier repas. Celui-ci est un dîner parmi tant d'autres, au cours d'un repas, dit l'évangile. C'est le signe de tous les dîners chrétiens, c'est-à-dire de toutes les eucharisties qui doivent l'exprimer. Donc chaque messe, chaque célébration devrait être ça. Oh, phrase difficile. Quand le diable avait déjà mis dans le cœur. C'était déjà mis dans le cœur. Jean prend bien soin de pointer la source du mal, le diable. Il ne s'agissait pas seulement de séparer le péché, la trahison, du pécheur, Judas. Mais il s'agissait de montrer la distance totale entre le cœur de Dieu et le cœur du diable. Le cœur menteur qui ne comprend pas précisément quoi ? Cette réalité de l'amour que c'est le cœur de Dieu. Le vrai protagoniste de la mort de Jésus n'est pas Judas. Ce n'est pas Pilate, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les autres. C'est l'ennemi de l'homme. C'est le mal. Et Jésus, par son geste, libère l'homme du mensonge du diable sur Dieu, qui veut voir Dieu comme un juge et un oppresseur. La tromperie est vraiment de ne pas connaître Dieu comme amour. Toujours Genèse 3. Sa puissance divine, la puissance de Dieu, réside dans cet amour. Et en effet, nous lisons, « Sachant que Dieu lui a tout donné, Jésus a la pleine conscience d'avoir le pouvoir suprême de Dieu, tout pouvoir entre ses mains. » Nous disons ça en grec, c'est le pantocrator, non ? Tout le pouvoir du monde dans ses mains. Jésus, conscient de sa toute puissance, d'avoir tout entre ses mains, là c'est un peu d'avoir conscient de sa toute puissance, d'avoir tout entre ses mains, prend entre ses mains les pieds des disciples et il les lave. C'est sa toute puissance. Là, c'est vraiment énorme. Moi, quand je m'arrête un instant à penser à ça, on s'arrête, ça suffit. Non, c'est énorme, non ? La toute puissance de Dieu lave les pieds des disciples, lave nos pieds. Impossible à comprendre. Il s'agit de contempler en silence la puissance de Dieu qui est amour et ainsi. C'est le pouvoir absolu de Dieu. Absolu signifie sans lien. Hein? Ça signifie ça, le terme sans lien. Donc, c'est une libération. Il peut laver les pieds de ceux qui trahissent et de ceux qui nient. Non, il lave les pieds avec toute sa puissance de tout le monde, même de Judas. Hein? Judas était encore dedans. C'est-à-dire de tout le monde. Ainsi, Dieu se révèle comment ? En tant que Dieu. Dans sa puissance suprême d'amour inconditionnel. Et juste comme ça, le chef de ce monde est expulsé par cet amour. Et puis Jean continue encore. Puisqu'il est sorti de Dieu et revient à Dieu. La sortie du Dieu de Jésus, c'est l'incarnation. Son retour, son passage au Père n'est pas seulement sa mort ou son ascension, car toute sa vie est un retour au Père. Mais par son chemin de retour, le Seigneur récupère tous ses frères pour se présenter au Père en lui disant « Voici les frères que tu m'as donnés ». Nous le verrons dans le chapitre 17. L'humanité tout entière est ici. Elle est là avec moi. Là, c'était juste le prologue. Maintenant, la scène décrite avec précision, la scène du lavement, et il y a dans cette scène sept verbes. Moi, je vous propose de faire comme ça. Je vous dis les sept verbes, et après on la relit. Parce que c'est... Et donc, le premier. Ça va? Je vais. Hein. Le premier. Il soulève du dîner. Oh là, j'ai appris une chose qui me plaît énormément. Le verbe se lever, dans les évangiles, signifie se lever, signifie ressusciter. Non? Dans l'évangile de Marc, vous savez quelle est la première personne qui se lève? La belle-mère de Pierre. C'est le deuxième miracle. Non? Non. Et nous disons normalement, vous vous souvenez du miracle, non? La belle-mère était prise par la fièvre, Jésus arrive, la guérit, et elle se lève et commence à les servir. Et donc, une lecture un peu machiste de ce passage dit, voilà le sens des femmes dans l'Église, elles servent. Et les hommes sont là, ils discutent, ils enseignent, non, c'est... Non? Non, ils font les évêques, ils font... Non? Les chefs, ils prennent le pouvoir, c'est le contraire de ce que fait Jésus. Hein? Jésus lave les pieds. Pour moi, c'était énorme, vraiment très beau, émouvant aussi, de découvrir qu'en fait, la belle-mère de Pierre est celle qui vit la résurrection par le service. Et les disciples sont là à discuter et à se disputer pour qui était le premier, qui était le dernier, qui devait aller avec lui au royaume des cieux. Non, c'est... Et si vous voyez dans les évangiles, hein, ça c'est un petit côté féminin qui sort, hein, pas féministe mais féminin, c'est dans les évangiles, vous verrez que les femmes sont souvent les premières à vivre l'expérience de la résurrection par le service. Donc il ne s'agit pas... Non, je m'arrête, ça va. Donc, Jésus qui se lève, en fait, ce qu'il fait, il le fait en tant que ressuscité. Donc, c'est le geste ultime. C'est déjà la fin. Okay. C'est déjà le cœur. Premier verbe. Deuxième, il dépose son vêtement. Il ne dépose pas sa veste, car la veste sera le manteau. Les vêtements, par contre, indiquent tous les vêtements. Et donc, il se déshabille. Il ne reste que la nudité de l'amour, la nudité du serviteur qui révèle Dieu. Et ce déshabiller est important. Alors, dans la tradition grecque, enlever le voile, se déshabiller, signifie révéler la vérité. Non? Et donc, c'est une nudité de l'amour. De l'amour, c'est la vérité de Dieu. C'est le même mot que l'utilise quand on parle du beau berger qui donne sa vie en faveur des brebis. Donner sa vie, se déshabiller. Il y a le pouvoir de déposer et de reprendre. Donc, le commandement de l'amour, c'est déshabillage. Et c'est précisément dans cette nudité de l'amour que se révèle l'essence de Dieu. Dieu est cet amour. Le troisième et le quatrième. Il prend un tissu, dont il se sent.
Un tissu dont il se sent.
Je n'arriverai jamais à le prononcer comme il faut, mais vous avez compris, non? Ok, d'accord. Une serviette, un tablier, et il se sent de cela. Et puis, on ne dira plus qu'il l'enlève, parce qu'on dirait il se sent, et après il l'enlève, il se rhabille, non? Il le garde. Quand il reprend son vêtement, il garde encore ce tissu, comme le vêtement le plus intime de Dieu. Et il reste toujours comme un vêtement du serviteur par amour. Un tissu qui restera pour toujours. Parce que Dieu est amour et service éternel. Il est encore là. Et avec cela, il se sent avec cette majesté et cette splendeur de sa gloire. La majesté et la splendeur de Dieu et se mettre au service. Cinquième, il verse ensuite de l'eau dans un bassin. Pâques était le passage de la mer Rouge. Dans la mer Rouge, Dieu a noyé tous ses ennemis et a sauvé son peuple. Or, l'eau de la mer Rouge est un bassin d'eau qui ne noie personne. Sauf celui qui commence à servir tout le monde. Il finira dans cette eau qui sera un symbole, un signe de cette eau et de ce sang qui va couler de son côté. C'est la nouvelle Pâque. La Pâque qui nous libère de l'ennemi, même de la mort, de tout mal, par cette eau. C'est l'eau de baptême. Le sixième, il commence à laver les pieds des disciples. Il commence. Cela indique une action ponctuelle. Il a commencé. Un instant précis. C'est ce moment où il a accompli sa vie. C'est l'accomplissement, donc. De là, il a commencé à laver les pieds des disciples et il le fait toujours. Le lavement des pieds est un geste d'hospitalité et d'accueil. C'est le geste d'intimité de la femme avec son mari ou le geste de révérence des enfants envers leurs parents. Ici, cet accueil, cette hospitalité, cette intimité, cette révérence, c'est ce que Dieu a pour chacun de nous. Et toute la vie de Dieu s'exprime dans cette hospitalité, cet accueil, cette intimité, cette révérence. Donc, ne pas accepter ce service signifie ne pas accepter cette réalité de Dieu. Et puis le dernier, le septième. Et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. Nos pieds sont enveloppés dans sa robe de service. Nos pieds sont enveloppés dans sa gloire. Son propre vêtement. Mais pourquoi les pieds? Car l'homme est son chemin. Alors comme il marche, comme il vit, ainsi il comprend, il agit. Jésus, en nous lavant les pieds, guérit, c'est-à-dire guérit notre chemin, guérit notre mode de vie. Demandons-nous ce qui signifie que Dieu est le Seigneur, le Maître, et c'est celui qui nous lave les pieds. Toute la suite de l'Évangile sera un développement de ce qui est ici dit. Gardez cette icône de Jésus qui lave les pieds et exprime ainsi la pleine conscience de la gloire de Dieu. Ainsi, il exprime que Dieu est amour à l'extrême. Ainsi, la Pâque est accomplie. Ainsi se réalise toute la puissance de Dieu qui n'a d'autre puissance que celle-ci, de servir. Et c'est la puissance qui vainc tout ennemi et la mort elle-même. Premier tableau. Ça vous dit de faire 2 minutes de silence pour contempler cette scène? Je vous la relis un instant. Sachant que le Père a remis toute chose entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge dont il se saint. Il verse ensuite de l'eau dans son bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Méditer cette page de l'Évangile hier, j'étais vraiment frappé de voir le film d'hier soir. Parce que si vous voyez, en fait, ce que les premières focolarines ont fait, ça a été se mettre au service. Elles ne savaient pas toutes ces choses-là. Hein. Elles n'étaient pas des théologiennes. Elles étaient des jeunes filles. Donc il y avait une culture moyenne et même moins que moyenne. La plus érudite, si vous voulez, était Chiara, qui venait d'obtenir un poste à l'Université de Venise qu'il n'a jamais fréquenté. Donc. Mais vous voyez vraiment que en ces filles, les fruits de la résurrection sont clairs. Elles se mettent au service. C'est la première chose qu'elles ressentent comme essentielle de leur vie chrétienne. Et hier, en le regardant, j'étais vraiment Je le savais, hein, je le savais. Mais voilà, nous vivons la résurrection à chaque fois qu'on se met à servir les autres. Nous vivons la résurrection de Dieu, de Jésus, à nous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, s'il y a une phrase de l'évangile qui exprime un petit peu le cœur de la spiritualité du mouvement des Focolides, bien sûr, il y a que tout soit temps, c'est vrai, non? Mais le commandement nouveau, c'est d'une certaine manière le style de vie du mouvement des Focolari. Oh non, c'est pas un brevet du mouvement des Focolari, d'abord, non? C'est l'évangile. Donc, c'est le style de vie de l'Église, non? D'accord. Mais il est vrai que dans la spiritualité du mouvement des Focolari, cette idée de l'amour réciproque est essentielle. Nous l'avons en exergue de nos statuts. Hein. S'il n'y a pas ça, tout le reste ne sert à rien. Je le dis comme si c'était comme ça. Non, je le dis en espérant que cela devienne de plus en plus notre vie. Non. Nous avons vu que le sens le plus profond de l'Eucharistie est l'amour, se mettre concrètement au service. Cela signifie que dans l'Eucharistie, nous rencontrons la réalité de Dieu. Je dis la gloire de Dieu. Le service est la gloire de Dieu, c'est-à-dire la vérité de Dieu, lui qui se donne à nous dans l'amour. En continuant la narration du chapitre 13, c'est comme si Jean nous disait, vous le rencontrez dans l'Eucharistie, oui, c'est vrai. Mais avez-vous compris ce qu'est l'Eucharistie? Eh bien, le commandement de l'amour mutuel est le lieu de cette rencontre avec la réalité de Dieu que l'Eucharistie signifie. Tout d'abord, je vous donne, c'était un don. Ce commandement est un don, c'est le plus grand don que Dieu nous a fait. Il nous commande d'être comme lui qui est amour. Ce n'est donc pas une obligation, c'est un don. Comme le disait hier Florence, chaque commandement de Dieu est pour l'amour, pour la vie, pour la liberté. Déjà, le premier commandement de Dieu était de tout manger sauf ce qui nous tue. Toujours Genèse 3. Et nous avons vu comment ce qui nous mène à la mort est la fausse image d'un Dieu qui veut nous soumettre. L'interdiction porte sur la mort. Le commandement est toujours pour la vie et pour la mort. Donc, cet ordre, ce commandement qu'il nous donne est nouveau. Mais pourquoi il est nouveau? Parce que pour la première fois, par l'amour mutuel, nous pouvons rendre visible la gloire de Dieu, la réalité de Dieu. Cela signifie que pour la première fois, nous pouvons atteindre véritablement cette plénitude de vie qui est Dieu lui-même, qui est l'amour entre le Père et le Fils. Pardonnez-moi, mais j'ai dit des paroles. Vraiment. Je voulais garder toujours, non? Là, à la lisière de la salle à manger, vous étiez là, vous mangez, il y avait la belle musique, il y a les moines de la Chartreuse qui chantaient, et Saint-Jean d'ailleurs. Et je me disais, la réalité de Dieu est l'amour et le service. L'amour mutuel rend présent Dieu. Quand nous aimons les uns les autres, Dieu est là. Hier, non, ce moment extraordinaire pour moi de Chiara et les premières focolarines qui étaient en montagne, qui à un moment disent mais non, on est des amis, on est bien ensemble, donc on est contente. Et Chiara dit ah non. C'est Jésus qui nous rend contentes. C'est Jésus qui est là parce que nous aimons les uns les autres. Donc vous voyez que annoncer l'amour de Dieu, ce n'est pas une prêche, ce n'est pas une homélie, ce n'est pas ce que je viens de dire. Annoncer l'amour de Dieu, c'est rendre présent Dieu dans le monde par l'amour réciproque. Sans parler peut-être. C'est l'amour inconditionnel de Jésus qui donne sa vie pour nous tous, qui dit la qualité de cet amour. Aimer, c'est savoir s'aimer de manière absolue et inconditionnelle, quels que soient ses mérites. L'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite. Donc l'amour de Dieu, l'amour entre nous devrait avoir cette mesure-là, sans limite. Je connais très bien les défauts de Paul, de Claude. Il est là, je le vois. Il connaît très bien les miens. Et pourtant, comme on a dit dès le début, dès la première heure qu'on a passée ensemble, c'est par là que ça se passe. La possibilité de cet amour qui est typique chrétien et qui ne regarde pas au mérite. Et qui aime de manière inconditionnelle. C'est ainsi qu'il m'a révélé son amour gratuit. Il m'a aimé quand je l'ai trahi. Il m'a aimé quand je l'ai renié. Il m'a aimé et il m'aime quand je lui suis infidèle. Alors, j'ai l'expérience de l'amour libre et je peux m'accepter et m'aimer et accepter et aimer les autres aussi. Être aimé est la condition pour vivre. Et nous, c'est le commandement nouveau, nous pouvons nous aimer les uns les autres. L'amour doit être réciproque, car s'il n'est pas réciproque, on ne peut pas vivre. Si quelqu'un aime et n'est pas aimé, il meurt. Mais comme je vous ai aimé, ce mot comment ne signifie pas simplement je vous ai indiqué comment aimer, c'est-à-dire je vous ai donné la mesure de l'amour, c'est ça aussi. Mais ce comment signifie aussi « puisque je vous ai aimé ». C'est-à-dire, la cause de l'amour que vous avez entre vous, c'est l'amour que j'ai pour vous. Si vous êtes aimé, vous pouvez aimer. Donc, comme je vous ai aimé, puisque je vous ai aimé, de l'amour dont je vous ai aimé, vous aussi, vous pouvez vous aimer les uns les autres. Je vous ai donné mon amour, maintenant, vous pouvez le donner aux autres. Dans le texte, entre autres, aimez-vous les uns les autres signifie précisément célébrer l'Eucharistie. Et c'est vraiment, véritablement la synthèse de l'Évangile. Vous comprenez que si nous sommes à l'Église et nous célébrons l'Eucharistie, mais il n'y a pas cet amour réciproque. C'est comme si on était déchiré en nous-mêmes. Je ne parle pas d'incohérence, parce que je sais que ce n'est pas volontaire la chose. Mais en fait, le sens de l'Eucharistie, c'est l'amour mutuel. Le sens de l'amour mutuel est exprimé par l'Eucharistie. Le commandement dit peut-être non seulement ce que nous devons faire, mais aussi ce que Jésus désire. C'est comme s'il remettait la clé de la gloire de Dieu entre nos mains. C'est comme si, véritable summum de l'amour, le Seigneur nous livrait le secret le plus profond de toute sa vie, et nous donner l'opportunité de le manifester ou non. Ce n'est pas tant un impératif, mais plutôt un désir, son désir le plus profond. Il s'est livré à nous comme s'il mendiait lui-même de l'amour de notre part. Et ainsi, le commandement se transforme en une sorte de pari de Dieu. Permettez-moi de le faire. Non, pari sur Dieu, comme le proposait Pascal. Mais c'est un pari de Dieu sur l'homme. Il nous propose d'oser, de nous jeter dans le sens de l'amour réciproque. Et il est comme, et lui, Dieu, il est comme suspendu, en attendant que nous nous lâchions l'ancien dans cette aventure d'amour. Car là où il y a l'amour mutuel, il y a Dieu. De cette manière, après tout, l'amour, ainsi, n'est que un. C'est Dieu l'amour. Et cela signifie que nous accueillons l'amour en Jésus qui nous aime et que nous transmettons le même amour aux autres. Ce n'est pas qu'il y ait deux amours, l'un de Dieu et l'autre du prochain. Parce que l'amour du prochain, le service au prochain est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est amour et nous acceptons l'amour de Dieu pour nous. Nous devenons fils de Dieu et nous aimons nos frères du même amour du Père. Ainsi, j'espère que cela ne soit pas simplement une conséquence théologique, parce que ce n'est pas théologique. Ce n'est pas théologique. Ainsi, nous faisons tous partie de la Trinité. Nous sommes fils du Père par l'Esprit Saint. Ainsi, nous faisons partie tous de la Trinité dans une seule vie, et c'est laquelle ? La vie de l'amour. Un seul amour. Cette réalité est immense. Cette réalité est à contempler, mais à vivre. Vous voyez comme ça, c'est typique du christianisme, le plus haut du christianisme, le très haut du christianisme, de Dieu, devient le très bas du service. Dieu est amour mutuel entre père et fils. En vivant l'amour mutuel, nous vivons la vie même de Dieu qui est le Saint-Esprit. La vie de l'Église, hein, c'est la vie de l'Église.
Qu'on peut dire seulement merci et que chacun prenne quelque chose. Il me semble que ce qui me vient le plus proche là, c'est qu'il a pris nos pieds et qu'il les a lavés. Me venait, c'est vrai que ça nous vient, ça vient. Enfin, je pense que dans notre vie passée, sans que nous le sachions, même si quelquefois il y a des choses qui nous reviennent et qui sont douloureuses, je pense que ce serait une grande lumière de savoir que dans notre vie passée, il a toujours, toujours été là. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant même, il a toujours été là. On a toujours été ensemble, lui et moi. C'est un grand mystère.
Pardonnez-moi, je dis une dernière chose, parce que moi, je parlais avec Gaël avant. Aussi avec Gaël, mais avec Marie-Noël. Et je parlais de la contemplation, dans le moment de février, on ne parle pas trop de contemplation. Parce qu'on voudrait être aussi très concret, non, on se met au service, on voudrait aimer, en premier. Mais je trouve que contempler de temps en temps, ça fait du bien. Non ? Parce que cela nous comble de joie. Et la joie qu'on vit en notre vie, moi je trouve que pour moi c'est beaucoup comme ça, la joie m'aide à aimer. Non ? Donc s'arrêter un instant et contempler, remercier Dieu parce qu'il nous aime, il nous a appris à aimer, remercier les frères parce que nous pouvons les aimer, parce que comme ça on est fils ensemble, frères, non ? Contempler ça donne joie et ça aide à aimer. Et donc de temps en temps il faudrait le faire, non ? Même une page si concrète, si vous voulez, non ? Parce que c'est laver les pieds, c'est très concret, hein ? C'est incroyable le fait qu'on peut vivre la Trinité en débarrassant la table. C'est incroyable, non ? Mais la contemplation nourrit notre action.